Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. On parle beaucoup de notre relation à la nature, de se reconnecter à la nature. On sait à quel point elle est importante, par exemple dans ce que l'on ingère. On voit de plus en plus des retours à des méthodes traditionnelles de soins. On a une relation aux plantes de manière générale, que ce soit le café, le tabac, l'alcool, le thé, extrêmement importante. Et pourtant, sur le sujet des produits dits hallucinogènes, on est, en France en tout cas, complètement bloqué. Et aujourd'hui, je suis hyper content, je pense que vous imaginez pas à quel point, de recevoir Françoise Bourza, que j'ai entendu pour ceux qui connaissent sur le podcast de Tim Ferriss, qui est sans doute l'une des femmes les plus respectées au monde, en tout cas aux États-Unis et dans le monde occidental, sur le sujet de la santé mentale et des produits hallucinogènes. Et avec Françoise, qui se trouve être française, même si ça fait 40 ans qu'elle est aux États-Unis, on va parler de ces produits, comprendre d'où vient cette diabolisation en France, comprendre à quoi ça peut servir sur le plan thérapeutique, comprendre comment aussi on les ingère, parce qu'en fait, évidemment, il y a beaucoup de codes, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas dans ces traditions, comprendre aussi si ils sont applicables à notre culture, tout simplement. C'est une conversation extrêmement intéressante, je crois, même si vous êtes a priori complètement bloqué sur le sujet. Je pense que ce sera intéressant pour vous de l'écouter, pour ouvrir des discussions dans votre famille, avec vos amis, avec vos collègues, pourquoi pas. En tout cas, je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Françoise.
Bonjour Grégory.
Je suis hyper ravi de faire cet épisode ensemble. Je voudrais commencer par ton histoire personnelle. Étant jeune, tu as eu une expérience assez traumatisante en Inde.
En Thaïlande.
En Thaïlande, pardon, mm-hmm. Je pensais que c'était en Inde. Mm-hmm. Non, c'était avec un Indien et c'était en Thaïlande.
Avec un Indien en Thaïlande.
Et est-ce que tu peux nous expliquer cette expérience? Et j'aimerais bien comprendre quel rôle ça a eu pour toi dans ta vie.
Mm-hmm. Alors, cette expérience, c'était que je voyageais seule en Thaïlande. J'avais 23 ans et voilà, j'étais partie visiter quoi. C'était 79, il y avait pas beaucoup de pèlerins sur la route encore à cette époque-là, mais bon. Et je visitais un site où il y avait des anciens temples, donc. Et puis j'ai rencontré cet homme d'Inde qui était un ingénieur civil qui finissait un contrat en Thaïlande et qui avec lequel j'ai sympathisé pour la journée. Et nous avons échangé nos guides du routard machin. Et puis on a décidé de visiter un lieu de temple qui était un peu isolé, un peu séparé de la localité centrale de ces temples. Et puis, en fait, une fois qu'on était sur ce petit chemin, on s'est fait attaquer par deux bandits, deux brigands, qui nous ont tiré un pistolet sur porte, comme ça, là, paf, en direct. Et puis, il est mort devant moi, il s'est fait tué dans la tête, quoi. Et moi, j'ai reçu une balle dans la jambe et je me suis écroulée et j'ai été récupérée par un petit fermier et puis emmenée à l'hôpital, emmenée à la station de police et enfin, etc. Cet homme était apporté sur la table d'opération à côté de moi où j'étais et il est mort là. Et j'étais très, très traumatisée, évidemment. Et en même temps, cet épisode de ma vie m'a vraiment fait voir la fragilité de la vie et le côté extrêmement précieux de la vie que j'avais. Et qu'est-ce que j'allais faire de ma vie? Alors que j'étais un petit peu incertaine, j'avais démarré des études, j'avais laissé mes études, j'avais voyagé en Amérique du Sud, dans les Amériques pendant 9 mois, faire du stop avec mon mec. J'avais 19, 20 ans, c'était bien. J'avais fait des trucs sympas dans ma vie. J'étais assez aventurière, mais en même temps, j'étais pas très sûre de mon chemin professionnel, d'études ou quoi. Et en fait, cet épisode-là m'a vraiment mis sur des rails de faire le choix de vraiment ce que je voulais faire dans ma vie sans être limitée par ce que j'aurais dû, ce que je devrais faire ou ce que la société me demandait de faire. J'étais assez déprimée en fait. J'étais pas très sûre de moi-même, on va dire, sûre de mes décisions, un peu paumée quoi. Et donc, j'ai décidé de vraiment prendre ma vie en main et en fait, d'économiser des sous et de déménager aux États-Unis pour pouvoir étudier, aller faire des études de massage. Je voulais faire du massage de bien-être, mais à l'époque, en France, il y avait juste être kiné, ce qui m'intéressait pas vraiment. Et donc, je voulais pas trop faire des études médicales, c'était plutôt du massage de bien-être que je voulais faire, que j'avais eu l'occasion de recevoir pour différentes relaxations, etc. Et donc, je suis venue en Californie étudier ça. Et en fait, voilà, en fait, je suis jamais repartie, quoi. C'était en 81 et je suis jamais repartie. J'ai aimé ma liberté, la possibilité de recréer quelque chose ici, donc en Californie. Et peu de temps après, enfin, deux ans et demi environ après mon arrivée ici, j'ai rencontré des personnes qui étaient complètement engagées dans un travail personnel, donc de développement personnel, de thérapie, en fait, qui étaient associées avec la prise de substances psychotropiques ou psychédéliques, qui accéléraient et approfondissaient la connaissance personnelle, la guérison personnelle et l'ouverture d'un espace spirituel personnel. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup attirée. J'ai commencé à faire ce travail moi-même. Et puis, j'ai décidé de m'embarquer là-dedans en faisant, donc, reprenant des études de psycho, pour avoir une maîtrise en psycho, pour pouvoir faire différentes expériences, différentes études qui m'orientaient plus précisément sur ce champ d'action. Et depuis, j'ai continué à approfondir tout ça.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que en France, il n'y a aucune étude sur les psychédéliques comparée à ce qui se passe en Angleterre, au Canada ou aux États-Unis. Et dans la tête des gens, pour beaucoup en tout cas, il y a une diabolisation, une incompréhension de la différence qu'il peut y avoir entre, j'en sais rien, de l'héroïne, de la cocaïne, des champignons hallucinogènes, de l'ayahuasca pour ceux qui savent ce que c'est, du LSD. Comment on explique une telle différence culturelle entre des zones? Parce que c'est quand même incroyable, parce que toi tu es française, tu es une référence mondiale sur le domaine, et pourtant, en France... je pense que ton nom, il n'est pas hyper connu, à part pour ceux qui s'intéressent vraiment au sujet. Comment ça se fait que ça ne traverse pas les frontières? C'est étonnant, tout traverse les frontières et ce sujet-là, ça reste bloqué en fait.
Oui, je pense que les Français ou la culture française est assez sceptique, est assez, apeurée par rapport aux choses pourrait avoir affaire avec des sectes, avec des pratiques un peu ésotériques, un peu bizarres. Il y a un jugement rapide et formel sur tout ce qui est un peu en dehors des habitudes, on va dire. Ce qui est un peu nouveau est un peu pas pris au sérieux, malgré que c'est pas nouveau, c'est ce qu'il y a de plus ancien, d'ailleurs, on pourrait dire, c'est vraiment ce qu'il y a de plus ancien au niveau médical, on pourrait dire, mais disons qu'il y a une certaine opinion qui est malheureusement rigide, et aussi il y a une certaine prise en main de tout le domaine psychologique par un monde psychanalytique qui a été quand même très fort en Europe, et qui a démarré en Europe et qui est resté engrainé vraiment en Europe. Et donc, il y a une certaine, stagnance sur ce système psychologique qui est resté très, très psychanalytique, vraiment, jusqu'à ce jour, alors que des méthodes psychothérapeutiques et psychologiques diverses qui s'inspirent de la psychanalyse, mais qui ont évolué, qui se sont élargies sur des mondes plus psychosomatiques, plus psychospirituels, ne sont pas vraiment intégrées en France d'une manière mainstream, quoi, d'une manière c'est dommage, c'est dommage, et les choses sont toujours un peu en retard en France, 15-20 ans après, quoi. Donc moi je me rappelle quand je venais en France dans les années début des années 90 avec mon enseignant de psycho somatique, donc qui était de la psychologie basée sur l'observation de nos émotions au niveau corporel, donc comment on organise nos émotions physiquement. On parlait de ça dans une conférence en France et les gens nous regardaient comme si on venait de Mars, quoi. Alors que c'était déjà aux États-Unis, normal depuis 30 ans, quoi. Normal depuis Gestalt, de Fritz Perls et Carl Rogers. C'était déjà acquis depuis les années 60, 70. Et on était en 80, 93. Et en France, on me regardait comme si j'étais vraiment, je parlais d'un truc très ésotérique, quoi. Donc je pense qu'il y a vraiment une, la France n'est pas très créée.